Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité politique en ce jeudi de l'Ascension est Antoine Kiefer. Il est responsable communication du Rassemblement National pour les Côtes d'Armor. Et en ce jour férié, il nous a rejoint au micro de la matinale. Merci infiniment, bonjour.
Bonjour, merci à vous.
Alors on va parler de politique ce matin. J'avais envie de rentrer, si j'ose dire, dans le vif du sujet avec cette loi qui a fait couler beaucoup d'encre, qui était aussi très attendue, qui a été discutée dans un grand calme et dans une grande sérénité finalement à l'Assemblée nationale, cette loi sur la fin de vie. On sait que à droite et dans les rangs aussi du Rassemblement national, les textes, puisqu'il y a deux textes, ne faisaient pas forcément l'unanimité.
Oui, ça ne faisait pas forcément l'unanimité parce que, encore une fois, et je le salue, ça a été discuté dans le calme, c'est quelque chose de très profond qui peut bouleverser une société. Et effectivement, il y a des visions différentes. Et c'est vrai que la vision est en fait le pic de la montagne entre le oui et le non est aussi un peu propre à chacun, mais cette différence, elle s'inscrit dans le fait de refuser en réalité la fin de vie par rapport aux soins palliatifs. C'est cette différence-là, c'est-à-dire que c'est ma conviction profonde aussi, pour l'avoir vécu dans mon entourage, lorsque la douleur est apaisée, lorsque la douleur est atténuée, la vie en vaut la peine. Mmh. La vie en vaut la peine jusqu'au dernier souffle pour la personne qui est là et pour les proches qui l'entourent. Évidemment, il y a des circonstances où il n'y a plus rien de possible. Mmh. Il n'y a plus rien de possible, plus aucune issue à la fin de la fin. Éventuellement, ça peut être un souhait pour certains. Mais il y a des parties de la loi qui inquiétaient aussi, notamment des psychologues, des psychiatres, concernant un mal-être qui pourrait être psychologique et qui, pour ces personnes, c'est leur métier d'ailleurs pour ces psychologues et ces psychiatres, d'aider ces personnes à aller mieux et non pas accepter la mort face à des problèmes qui leur paraîtraient insurmontables.
Avec une inquiétude dans la société sur les dérives possibles, on l'a entendu, hein, ça fait partie des inquiétudes, ça fait partie des problèmes soulevés autour de ce texte ou de ces textes. Et il y a aussi l'inquiétude des personnels soignants qui vont se trouver confronté à un dilemme terrible, soigner jusqu'au bout ou pouvoir autoriser, provoquer la mort, voilà.
Provoquer la mort. Et là, ça bouleverse aussi tout ce que l'on pouvait avoir comme préconçu auparavant, c'est-à-dire le serment d'Hippocrate, par exemple. Voilà. C'est un bouleversement qui est assez important dans la société. Et c'est vrai qu'on en verra les conséquences.
Il faut pouvoir donner à tout un chacun le droit de mourir comme il le souhaite, dans la dignité.
Dans la dignité.
Voilà, soit en allant jusqu'au bout, soit en abrégeant sa vie.
Dans la dignité, c'est-à-dire apaiser, enlever les souffrances, enlever la douleur. Parce que moi, je suis aussi un partisan de la vie en réalité, et je pense que la vie en vaut la peine et elle vaut d'être vécue jusqu'à la fin. Mais c'est vrai que la douleur est insupportable, des états de délabrement physique aussi sont insupportables pour certains, mais il est vrai que le supérieur, l'âme, le psychique est toujours là, même si le corps n'est plus là, et je suis ce partisan. En réalité, je me mets dans cette situation des fois, j'y réfléchis parce que voilà, j'ai vu des proches qui étaient dans ces situations, et je pense que si ma douleur est apaisée, notamment avec les soins palliatifs, et donc je pense que il ne faut pas prendre en compte non plus cette fin de vie pour encore plus amoindrir les moyens de l'hôpital public et des soins palliatifs. Voilà, je me mets dans cette situation et je pense que si mes douleurs sont apaisées et que je peux aller jusqu'au bout pour peut-être aussi rassurer mes proches, leur transmettre certaines choses, je pense que j'irai jusqu'au bout, oui.
Le choix est philosophique.
Il est philosophique, c'est pour ça.
Il est parfois religieux aussi, hein, on a entendu.
Aussi des fois religieux. Et c'est pour ça que c'est très bien que ce soit déroulé dans une situation d'apaisement, même si on en verra peut-être de mauvaises conséquences. Mais ce sont des choix qui sont, au fond, très personnels sur ces sujets-là. Oui.
On a le sentiment que dans cette société très fracturée, très clivante, hein, pour reprendre un terme souvent galvaudé mais à la mode, on a eu ce moment de réflexion. Moi, je poussais un petit peu l'idée plus loin, c'est pourquoi on n'a pas ce moment de réflexion sur d'autres sujets parfois difficiles. Alors, si je parle de budget, évidemment, ça va être sans doute beaucoup plus clivant, là encore. Est-ce qu'on a perdu ce sens de la réflexion politique dans la société d'aujourd'hui ?
Je pense qu'une partie de la classe politique a perdu ce sens de la réflexion, mais en réalité, quand on observe l'hémicycle, on voit très bien où l'émulation et les moments de tension et en réalité de manque de réflexion, de réaction et de surréaction sont. C'est à l'extrême gauche de l'hémicycle.
On a beaucoup parlé de l'extrême droite en un certain temps, avec une extrême droite qui faisait peur, qui fait toujours peur aujourd'hui. On voit le
moins.
Peut-être moins.
Oui.
Avec le tir de barrage de la gauche qui fait de la lutte contre le Rassemblement national.
Je pense même qu'ils font plus peur que nous.
Alors voilà, justement,
voilà,
aujourd'hui,
en réalité, on
a cette réflexion autour de la gauche extrême, pour ne pas la citer, de la France insoumise, qui tente à faire peur si demain elle arrivait au pouvoir.
Qui tente à faire peur et qui assume leurs erreurs, leurs positions qui sont des fois très contestables, et ils assument, ils persistent, ils signent. Et je pense que ça, en réalité, oui, effectivement, ça n'est pas de bon augure à rassurer les gens. Pas du tout.
Et là aussi, le débat est impossible du fait dans ce climat, dans cette configuration.
Oui, parce qu'ils ne le permettent pas, en réalité. Quand on voit sur certains projets de loi où ils préfèrent déposer des milliers d'amendements pour éviter, en réalité, un débat, tout simplement un débat. Voilà, quand... certains mouvements déposent 200-300 amendements de fond et que eux, même sous des précédentes mandatures, déposent des milliers d'amendements, avec certains où il y a juste une virgule qui change, un point qui change. On voit bien qu'il y a quand même une volonté de bloquer le débat, quoi. C'est pas très serein, pas très sain. Donc effectivement, il y a une partie de la classe politique, dont celle-là, qui bloque le débat. Et donc on ne peut pas avoir... un débat apaisé sur un texte qui, en réalité, au final, touche les Français. Les Français qui ont élu ces députés pour pouvoir, lorsqu'ils dorment, qu'ils travaillent, s'occuper de leurs affaires et leurs problématiques.
Alors, une problématique qui est revenue sur le devant de la scène, c'est l'agriculture. On a vu les tracteurs à nouveau gagner les rues et même la région parisienne et le parvis de l'Assemblée nationale. Ce texte, cette fameuse loi Duplomb, finalement, ne sera pas discuté, puisqu'il y a eu cette motion de rejet, donc cette petite artifice législatif qui a permis d'éviter finalement une censure du texte.
Avec, encore une fois, un dépôt incommensurable de nombre d'amendements, encore une fois, de la même partie de l'hémicycle, pour éviter le débat sur la loi. Donc ils auraient pu débattre en plus, ils avaient quand même beaucoup d'arguments sur le fond, notamment sur le problème, et je vais mettre les pieds dedans, le problème avec le retour des néonicotinoïdes. Mais ça, c'est un problème qui est là, pourquoi ? Parce qu'en réalité, nous avons des entreprises, même bretonnes, qui sont capables d'apporter des produits différents et beaucoup plus respectueux de l'environnement. Mais qu'a fait la Macronie jusqu'à maintenant sur la recherche, le développement ? Rien du tout. Donc en réalité, on est sur un dilemme entre sauver l'agriculture ou la perdre. C'est ça le dilemme. Donc en fait, on est obligé, on n'a pas le choix. Il n'y a pas d'autre substitut actuellement pour pouvoir le faire. Mais évidemment, c'est souhaitable. Évidemment, c'est souhaitable.
Avec la concurrence des autres agriculteurs européens.
Voilà, exactement.
D'autres pays qui ont accès aux.
J'aimerais rendre hommage aussi, parce qu'on parle des agriculteurs, j'aimerais aussi avoir une pensée pour les agriculteurs de la mer. Voilà, parce que c'est aussi un peu mon domaine de base, et j'aimerais aussi avoir une pensée pour ces agriculteurs de la mer, ces artisans pêcheurs, ces ostréiculteurs, ces mytiliculteurs, tout cela, parce qu'ils sont aussi dans des difficultés colossales, gigantesques, et ils sont aussi un petit peu oubliés actuellement, mais comme tous les artisans et tous les entrepreneurs, toutes les personnes qui ont une entreprise aujourd'hui en France et qui tiennent bon, et qui tiennent la barre de ce pays, et voilà, j'aimerais avoir un hommage. Donc effectivement, il y a des problèmes. Aujourd'hui, on était face à un dilemme qui a été créé par l'inaction de la Macronie, c'est-à-dire où alléger, aider, donner un coup d'oxygène à nos agriculteurs pour qu'ils puissent aller un peu mieux, parce qu'en réalité, ça n'est absolument pas suffisant. Mmh. Ou alors participer et accompagner leur mort certaine. C'est un sacré dilemme, mais il faut savoir faire des choix, et en politique, il faut choisir le moins pire.
Avec une difficulté à gouverner, là encore, hein, on a la composition de l'Assemblée nationale qui est ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de majorité, sinon une majorité relative pour le président de la République, en tout cas le parti proche du président de la République. On voit poindre depuis quelque temps une petite musique qui revient assez souvent, on parle de dissolution. Voilà, on va rentrer dans les temps possibles de la dissolution, qui n'est pas appelée de ses voeux par le président de la République. Et puis, de censure, de 49-3, ce serait une catastrophe si demain, par exemple, le gouvernement Bayrou tombait.
Est-ce que ce serait une catastrophe? Je ne pense pas, honnêtement. Ce ne serait pas une catastrophe. On a déjà vécu des changements, mais...
Il n'y a pas de risque de surajout à la crise déjà compliquée qu'on traverse, ne serait-ce qu'au niveau budgétaire?
Mais la crise est là depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, en réalité. Donc, est-ce que ça rajouterait quelque chose en plus? C'est un Bayrou bis ou un Barnier bis, ça ne changera pas grand-chose, en réalité. Et qu'est-ce qu'ils peuvent sortir de leur chapeau? Censure, pas censure, on aura peut-être potentiellement la même essence politique et la même mollesse politique, on va dire, au niveau de l'action politique. Même si il faut mettre un Bruno Retailleau au Premier ministre, on voit très bien son bilan, il parle fort, il monte les muscles, mais en réalité, depuis qu'il est là, hein, qu'est-ce qu'il a fait concrètement? C'est-à-dire, quelle décision a été prise pour se faire respecter à l'égard de l'Algérie? On a aussi ce rapport qui est sorti à propos de l'entrisme des frères musulmans.
Alors voilà, je comptais
voilà,
que fait-il, vous questionner autour de cela. Oui.
Que fait-il? C'est-à-dire que toutes ces personnes... la Macronie, il y a quelques années, était un conglomérat de l'ancien PS et de l'ancien UMP. LR a à peu près survécu, a élu son nouveau président, mais en réalité, ça ne changera pas grand-chose. Mmh. C'est-à-dire qu'ils font partie, c'est une béquille de la Macronie. Mmh. On le voit aux élections, même aux élections législatives. Quand il y a un candidat Rassemblement National face à un candidat LFiste, on peut prendre l'exemple d'Avignon avec le sulfureux candidat de l'extrême gauche qui a été élu. Eh bien, les opposants, que ce soit macronistes ou LR, se liguent contre le Rassemblement National, quitte à faire élire un candidat d'extrême gauche. Alors, donc on ne peut pas compter sur eux.
On va parler de ce rapport-là, mais juste avant, je voulais vous entendre sur le budget. On a entendu François Bayrou s'exprimer avant-hier, l'air grave, en disant, voilà, les finances de la France sont catastrophiques, fallait-il le démontrer?
Il le découvre. C'est quand même incroyable, il ne le savait pas avant.
Et il va falloir faire des efforts. Et là, on parle de cette possible TVA sociale, hein, c'est le terme générique qui a été employé, qui finalement est un impôt, si on le regarde d'un peu plus près. Est-ce que là aussi, on est encore dans une politique qui va, allez, permettez-moi le terme, il est un peu fort, mais taper sur les plus précaires.
Ça leur ressemble. C'est pas très étonnant en réalité. C'est-à-dire que avant de colmater la passoire, ils font couler de l'eau dedans, ils font absolument aucune économie, et puis ils essaient de chercher partout est-ce qu'ils peuvent trouver de l'argent. Mais par contre, les économies, ça non, hein, parce que ça va toucher peut-être une part de leurs électorats, une part de leurs amis, une part d'autres choses. Donc ça, non, les économies, ça, ils connaissent pas. Hein. C'est-à-dire qu'on dépense, on cherche de l'argent, mais les économies, on n'en fait pas.
Selon François Bayrou, même si on fait beaucoup d'économies, on n'arrivera pas à combler ce déficit qui prend de l'ampleur chaque jour, finalement.
Mais ils n'en font pas d'économies. Donc effectivement qu'ils auront du mal, ils veulent pas en faire. Donc c'est un problème et leur logiciel est le même depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, même avant, c'est-à-dire que on crée encore une autre taxe supplémentaire, mais que ce soit pour les gens qui se lèvent pour aller au travail, mais aussi les entreprises. Mmh. On arrive à un point où moi, quand je me balade à droite à gauche, j'entends de plus en plus de gens de mon âge, ma génération, même encore après, qui disent mais est-ce qu'on n'irait pas ailleurs ? Mmh. Ils regardent autour d'eux, ils disent mais on est quand même un pays avec un prélèvement automatique de dingue et où va l'argent, quoi ? Va l'argent ?
La question est posée, où va l'argent ? Et on l'entend, alors, dans les rangs de la gauche, pour le coup, en disant, voilà, l'argent, il va chez les milliardaires, chez les grandes, très grandes entreprises du CAC 40.
Mais c'est leur credo, mais en réalité, ces entreprises-là, aujourd'hui, elles ferment et elles délocalisent, il y a bien des problèmes aussi.
Est-ce qu'il faut leur demander à ces entreprises de faire un effort national, au risque, justement, peut-être... qu'elle délocalise.
Non, il faut demander au gouvernement de faire un effort pour les Français et les entreprises. C'est pas aux Français et aux entreprises qui emploient les gens, qui font tourner l'économie, qui maintiennent la France en marche, de faire encore des efforts. Non, il y a des économies à faire, ils ont à faire ces économies. Point à la ligne.
Avec l'Union européenne qui nous regarde de près, mais aussi un petit peu à la marge, le FMI qui, depuis quelque temps, s'agite un petit peu. Il y a eu ce rapport de la Cour des comptes qui a été produit aussi sur, là aussi, le déficit de la France. Est-ce que demain, on peut se retrouver dans une situation grecque, comme il y a quelques années, et se retrouver mis sous tutelle du FMI pour nous obliger, finalement, à régler notre dette ?
Ça me semble quand même... Ça me semble un peu compliqué étant donné la France n'est pas la Grèce non plus, mais Emmanuel Macron et ses gouvernements nous laissent quand même une sacrée ardoise, hein. Et la gestion en réalité des deniers publics n'est pas du tout rassurante, ça c'est certain. Donc oui, on va sur un chemin qui est celui-ci, qui est très inquiétant au niveau de la gestion économique. De là à être comme la Grèce, non. Mais on peut pas se satisfaire de la gestion actuelle de la France. Et comment M. Bayrou le découvre, on dirait que il s'est fait mouiller par la pluie. Ce dernier matin, là, il découvre que la France est mal gérée. Ben oui, elle est mal gérée, oui. Ça fait pas deux semaines, hein, Monsieur Bayrou.
Les Français sont-ils, selon vous, prêts à participer si on leur explique que, voilà, on va laisser une dette abyssale pour les générations futures, à participer et peut-être aussi à exiger du gouvernement que, on puisse aller sur des économies qui ne soient pas reléguées à un périmètre du français moyen ou des petites entreprises.
Les Français ont toujours de la bonne volonté, quand la réciprocité est vraie. Là, actuellement, c'est-à-dire qu'ils vont leur dire, bah, écoutez, on ne peut plus, quoi. Il n'y a plus d'argent, vous allez nous en donner, hein. Et puis on va le jeter par les fenêtres. On va le jeter par les fenêtres. Si vous nous demandez où ça va, on ne sait pas. Mais il n'y a plus d'argent, quoi. Donc il faut absolument que nous, en tant qu'intermédiaires, il faut que vous nous donniez cet argent, hein. On s'en occupe, hein. On a tout raté depuis des années. Mais faites-nous confiance, on va régler le problème. Donc les Français ont toujours la bonne volonté, mais il ne faut pas qu'ils soient pris pour des imbéciles. Et là, ils ont clairement ce sentiment-là. C'est-à-dire que partout, quelle que soit la sensibilité politique des gens que vous croisez au jour le jour, tout le monde vous dit « Où passe cet argent ? Où passe cet argent ?
Avec un paradoxe, les Français sont demandeurs de plus de services publics, sont demandeurs de meilleurs...
Sont surtout demandeurs de pas moins de services publics.
Ou en tout cas pas moins de services publics. On peut prendre le cas des campagnes où les postes ferment, où il est difficile d'avoir un rapport avec le service public parfois, sinon par le biais des mairies. Là encore une porte d'entrée, on va parler des municipales tout à l'heure. Est-ce que là aussi il va falloir combler ce paradoxe, c'est-à-dire continuer à régler la dette, mais continuer à maintenir ce qui peut être maintenu en termes de services publics et finalement de niveau de vie des Français.
Mais évidemment, il faut maintenir en réalité une vie sereine, une vie de proximité avec les gens. On peut pas en même temps leur dire on vous supprime tout, vous êtes à l'écart, la France des oubliés, et leur dire derrière bah oui mais là il faut plus d'argent hein. On vous a fermé votre poste, votre gendarmerie et votre école, mais faut encore plus d'argent hein, d'accord, donc serrez-vous la ceinture. Bah non, c'est pas possible, c'est-à-dire qu'ils doivent donner et rendre des comptes, savoir où passe l'argent. Et une fois qu'on sait où passe l'argent, d'ailleurs c'était la question de ce fameux audit, de ce grand audit que Jordan Bardella avait proposé aux Européennes, de savoir où passe tout cet argent. Il faut savoir où passe l'argent, il faut avoir d'abord la confiance des Français et des contribuables, pour ensuite éventuellement leur demander un effort. Mais à mon avis, il n'y a pas d'effort à demander, il y a des efforts que nos gouvernants doivent apporter sur la gestion de ces deniers, qui ne leur appartiennent pas. C'est l'argent des Français.
Avec toujours encore cette société française très fracturée sur des questions sociétales, sur des questions de sécurité. J'avais envie de vous entendre aussi sur des questions peut-être qui nous prédisent un avenir pas forcément très réjouissant, quand on voit que aujourd'hui il y a par exemple des actes de sabotage sur des lignes électriques. Ça a été le cas aussi sur des lignes SNCF juste avant les Jeux Olympiques et il y a encore 2 ans sur des émetteurs de télévision ou des relais de téléphone. On a l'impression d'actions comme ça aussi qui sont peut-être pas coordonnées pour l'instant, mais qui sont dans une idée de déstabilisation de la société. Est-ce que ça aussi c'est grave ? Est-ce qu'il y a, une sous-couche politique, si vous me permettez le terme, radicale, qui risque peut-être de fortement déstabiliser le pays ?
Oui, il y a ce courant-là qui est présent, de sabotage, mais aussi de destruction, et on le voit... On peut aussi attester la revendication des fois de ces actes, c'est-à-dire que
là,
c'est
souvent... Là, c'est deux groupes anarchistes, apparemment.
Voilà, anarchistes, exactement. Donc, on voit quelle mouvance cela représente. C'est inquiétant. Ça pose la question aussi de savoir jusqu'où le gouvernement est capable... d'accepter ces choses-là. Ça, on en revient au ministre de l'Intérieur. Hein. Mm-hmm. C'est encore une fois ses responsabilités.
Donc, qui a fermement condamné les actes et qui a demandé en tout cas que les infrastructures soient mieux protégées.
Oui. Blabla, blablabla. Bla.
Selon vous.
Ministre blablabla, bla, bla, monsieur Bruno blablabla. Bla, bla. Voilà. Non, il faut agir. Il faut vraiment prendre ça au sérieux. Ce sont des choses qui sont des signaux, des alertes, et on ne peut pas tout le temps parler, on ne peut pas tout le temps faire des prestations verbales. Il faut être très sérieux sur ces choses-là, parce que ce ne sont pas des sabotages de et encore, même si ce serait condamnable, mais ce ne sont pas des abribus, ce ne sont pas des tables, des chaises, ce sont des points qui sont quand même sensibles. Ce sont des points stratégiques. Donc derrière, il y a une volonté très réfléchie d'atteindre quelque chose. Ce sont des signaux qui arrivent. Il ne faut pas que ça se développe plus que ça ne l'est maintenant.
atteinte à la République, finalement, peut-être au-delà de ça, la démocratie, atteinte aussi qui se matérialise avec ce rapport dont une partie a été déclassifiée, en tout cas pour plus de 70 pages, le reste reste classifié et secret défense. Mais on a vu ce rapport sur l'entrisme des frères musulmans en France avec une situation qui est décrite comme déjà très inquiétante. Rapport qui est depuis un an sur le bureau du président de la République, et rapport, alors pour le coup, que Bruno Retailleau a choisi de rendre, en tout cas, de transmettre à quelques journalistes. Est-ce que c'est inquiétant, ce rapport ? Est-ce que c'est inquiétant, ce qui se passe aujourd'hui en termes d'entrisme religieux, et d'entrisme religieux par les frères musulmans qui imaginent un changement sociétal ?
Ce qui est inquiétant, c'est que on le sait déjà depuis longtemps, ce rapport le confirme officiellement. Mais nous le savons au Rassemblement National avec Marine Le Pen et Jordan Bardella depuis très longtemps. Moi, depuis que je suis arrivé dans le mouvement, c'est un thème qui est abordé. Sérieusement, ce sont des propositions qui ont été faites au fil du temps et des présidentielles.
On a reproché justement
au Rassemblement National. Il y a des solutions pour
régler ça. On a reproché au Rassemblement National de mettre de l'huile sur le feu, d'inquiéter.
Mais oui, d'inquiéter. On voit le résultat. Voilà, on voit le résultat aujourd'hui, c'est officiel. C'est un rapport officiel qui confirme ce que Marine Le Pen disait depuis de très nombreuses années, alertait et apportait des solutions pour régler le problème. Et effectivement, on s'en prenait plein la figure. Et là, ce qui est très inquiétant aussi, c'est que le rapport, ça fait un an qu'il est sur le bureau et qu'il est... en train de prendre la poussière, c'est-à-dire que Bruno Retailleau l'a mis en évidence, bien, je veux dire que c'était légitime et nécessaire pour la France, mais qu'il soit resté sur le bureau comme ça, sans acte, sans projet de loi de la part du gouvernement depuis un an, avec une situation qui est quand même extrêmement inquiétante et sérieuse, c'est surtout ça qui est inquiétant de la part de ces gens-là. On ne peut pas leur faire confiance, en réalité.
C'est du temps de perdu.
C'est du temps de perdu. C'est du temps de perdu. Ce sont des dangers supplémentaires à faire courir à notre démocratie, à la République, aux Français, à la France. Et donc, du coup, oui, effectivement, c'est très inquiétant, d'une part, le constat qui est officiel, et d'autre part, l'inaction... et peut-être éventuellement même la mise sous le tapis de ce dossier, qui, et je le rappelle, est depuis un an sur le bureau.
Le président de la République a dit qu'il ne fallait pas céder au complotisme, qu'il fallait être prudent en la matière.
Oui. Il faut repenser au général de Gaulle. Cette hauteur de vue, en réalité, M. de Gaulle, ou Pompidou aussi, cette hauteur, cette vision lointaine, est-ce qu'on aurait eu cette réponse de la part d'un président à cette époque sur un rapport officiel de personnes qui composent la République et qui se basent sur des données officielles, sérieuses ? Est-ce qu'on aurait eu une phrase sortie comme ça, qu'il ne faut pas céder au complotisme ? C'est-à-dire qu'en réalité, il prend en compte ce rapport comme quoi complotiste ? Une question.
Antoine Kiffer, il nous reste une poignée de secondes. Je voulais vous interroger sur les municipales. Alors, ça va être très, très rapide. J'imagine que le Rassemblement National est dans les starting blocks. Ça se prépare.
Oui, travail de fourmi, travail souterrain, qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'il y a une nouveauté qui est assez différente des autres fois. Voilà, nous avons des personnes qui se proposent pour faire des listes et être candidats, ce qui n'existait pas avant. Donc effectivement, nous aurons des listes officielles et nous aurons des listes sans étiquette avec des personnes qui ont nos affinités, notre sensibilité politique. Ça fera certainement un petit changement local.
Eh bien, c'est là-dessus que l'on va conclure, Antoine Kiffer. Vous reviendrez, on l'aura compris, pour parler de ces élections municipales. La campagne n'a pas encore commencé. Voilà, on fait le teasing, comme l'on dit. Antoine Kiffer, responsable communication du Rassemblement National des Côtes d'Armor, était avec nous en ce jeudi férié. Merci infiniment d'être venu jusqu'à nous. Très belle journée.
Très belle journée à vous aussi.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.